Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 3. Je tombais de sommeil. Je fus monté en ascenseur jusqu'à mon étage, non par le liftier, mais par le chasseur louche, qui engagea la conversation pour me raconter que sa sœur était toujours avec le monsieur si riche, et qu'une fois, comme elle avait envie de retourner chez elle au lieu de rester sérieuse, son monsieur avait été trouver la mère du chasseur louche et des autres enfants plus fortunés, laquelle avait ramené au plus vite l'insensé chez son ami. « Vous savez, monsieur, c'est une grande dame que ma sœur. Elle touche du piano, cause l'espagnol, et vous ne le croiriez pas, pour la sœur du simple employé qui vous fait monter l'ascenseur, elle ne se refuse rien. Madame a sa femme de chambre à elle. Je ne serais pas épatée qu'elle ait un jour sa voiture. Elle est très jolie, si vous la voyez. Un peu trop fière, mais dame, ça se comprend. Elle a beaucoup d'esprit. Elle ne quitte jamais un hôtel sans se soulager dans une armoire, une commode, pour laisser un petit souvenir à la femme de chambre qui aura à nettoyer. Quelquefois même, dans une voiture, elle fait ça, et après avoir payé sa course, se cache dans un coin, histoire de rire en voyant rouspéter le cocher qui a à relaver sa voiture. Mon père était bien tombé aussi, en trouvant pour mon jeune frère ce prince indien qu'il avait connu autrefois. Naturellement, c'est un autre genre, mais la position est superbe. Et s'il n'y avait pas les voyages, ce serait le rêve. Il n'y a que moi, jusqu'ici, qui suis resté sur le carreau. Mais on ne peut pas savoir. La chance est dans ma famille. Qui sait si je ne serai pas un jour président de la République? Mais je vous fais babiller. Je n'avais pas dit une seule parole, et je commençais à m'endormir en écoutant les siennes. « Bonsoir, monsieur. Oh, merci, monsieur. Si tout le monde avait aussi bon cœur que vous, il n'y aurait plus de malheureux. Mais, comme dit ma sœur, il faudra toujours qu'il y en ait, pour que, maintenant que je suis riche, je puisse un peu les emmerder. Passez-moi l'expression. Bonne nuit, monsieur. » Peut-être, chaque soir, acceptons-nous le risque de vivre, en dormant, des souffrances que nous considérons comme nulles et non avenues parce qu'elles seront ressenties au cours d'un sommeil que nous croyons sans conscience. En effet, ces soirs où je rentrais tard de la Raspelière, j'avais très sommeil. Mais, dès que les froids vinrent, je ne pouvais m'endormir tout de suite, car le feu éclairait comme si on eût allumé une lampe. Seulement, ce n'était qu'une flambée, et, comme une lampe aussi, comme le jour quand le soir tombe, sa trop vive lumière ne tardait pas à baisser. Et j'entrais dans le sommeil, lequel est comme un second appartement que nous aurions, et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Il a des sonneries à lui, et nous y sommes quelquefois violemment réveillés, par un bruit de timbre parfaitement entendu de nos oreilles, quand pourtant personne n'a sonné. Il a ses domestiques, ses visiteurs particuliers, qui viennent nous chercher pour sortir, de sorte que nous sommes prêts à nous lever, quand force nous est de constater, par notre presque immédiate transmigration dans l'autre appartement, celui de la veille, que la chambre est vide, que personne n'est venu. La race qu'il habite, comme celle des premiers humains, est androgyne. Un homme y apparaît au bout d'un instant, sous l'aspect d'une femme. Les choses y ont une aptitude à devenir des hommes, les hommes des amis et des ennemis. Le temps qui s'écoule pour le dormeur, durant ces sommeils-là, est absolument différent du temps dans lequel s'accomplit la vie de l'homme réveillé. Tantôt son cours est beaucoup plus rapide, un quart d'heure semble une journée. Quelquefois beaucoup plus long, on croit n'avoir fait qu'un léger somme, on a dormi tout le jour. Alors, sur le char du sommeil, on descend dans des profondeurs où le souvenir ne peut plus le rejoindre, et en deçà desquelles l'esprit a été obligé de rebrousser chemin. L'attelage du sommeil, semblable à celui du soleil, va d'un pas si égal, dans une atmosphère ou ne peut plus l'arrêter aucune résistance, qu'il faut quelques petits cailloux aérolithiques étrangers à nous, dardés de l'azur par quel inconnu, pour atteindre le sommet régulier, qui sans cela n'aurait aucune raison de s'arrêter et durerait d'un mouvement pareil jusque dans les siècles des siècles, et le faire, d'une brusque courbe, revenir vers le réel, brûler les étapes, traverser les régions voisines de la vie, où bientôt le dormeur entendra, de celle-ci, les rumeurs presque vagues encore, mais déjà perceptibles, bien que déformées, et atterrir brusquement au réveil. Alors, de ces sommeils profonds, on s'éveille dans une aurore, ne sachant qui on est, n'étant personne, neuf, prêt à tout, le cerveau se trouvant vidé de ce passé qui était la vie jusque-là. Et peut-être est-ce plus beau encore quand l'atterrissage du réveil se fait brutalement et que nos pensées du sommeil, dérobées par une chape d'oubli, n'ont pas le temps de revenir progressivement avant que le sommeil ne cesse. Alors, du noir orage qu'il nous semble avoir traversé, mais nous ne disons même pas nous, nous sortons gisants, sans pensée, un « nous » qui serait sans contenu. Quel coup de marteau l'être ou la chose qui est là a-t-elle reçu pour tout ignorer, stupéfaite jusqu'au moment où la mémoire accourue lui rend la conscience ou la personnalité. Encore, pour ces deux genres de réveil, faut-il ne pas s'endormir, même profondément, sous la loi de l'habitude. Car tout ce que l'habitude enserre dans ses filets, elle le surveille. Il faut lui échapper, prendre le sommeil ou au moment où on croyait faire tout autre chose que dormir. Prendre en un mot un sommeil qui ne demeure pas sous la tutelle de la prévoyance, avec la compagnie même cachée de la réflexion. Du moins, dans ces réveils tels que je viens de les décrire, et qui étaient la plupart du temps les miens quand j'avais dîné la veille à la Raspelière, tout se passait comme s'il en était ainsi. Et je peux en témoigner, moi, l'étrange humain, qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et, comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres. Tout se passe comme s'il en était ainsi. Mais peut-être seule une couche d'étoupe a-t-elle empêché le dormeur de percevoir le dialogue intérieur des souvenirs et le verbiage incessant du sommeil. Car, ce qui peut du reste s'expliquer aussi bien dans le premier système, plus vaste, plus mystérieux, plus astral, au moment où le réveil se produit, le dormeur entend une voix intérieure qui lui dit « Viendrez-vous à ce dîner ce soir, cher ami? Comme ce serait agréable !» Et pense « Oui, comme ce serait agréable, j'irai !» Puis, le réveil s'accentuant, il se rappelle soudain « Ma grand-mère n'a plus que quelques semaines à vivre, » assure le docteur. Il sonne, il pleure à l'idée que ce ne sera pas comme autrefois sa grand-mère mourante, mais un indifférent valet de chambre qui va venir lui répondre. Du reste, quand le sommeil l'emmenait si loin hors du monde, habité par le souvenir et la pensée, à travers un éther où il était seul, plus que seul, n'ayant même pas ce compagnon où l'on s'aperçoit soi-même, il était hors du temps et de ses mesures. Déjà, le valet de chambre entre et il n'ose lui demander l'heure, car il ignore s'il a dormi. Combien d'heures il a dormi? Il se demande si ce n'est pas combien de jours, tant il revient le corps rompu et l'esprit reposé, le cœur nostalgique, comme d'un voyage trop lointain pour n'avoir pas duré longtemps. Certes, on peut prétendre qu'il n'y a qu'un temps, pour la futile raison que c'est en regardant la pendule qu'on a constaté n'être qu'un quart d'heure ce qu'on avait cru une journée. Mais au moment où on le constate, on est justement un homme éveillé, plongé dans le temps des hommes éveillés. On a déserté l'autre temps, peut-être même plus qu'un autre temps, une autre vie. Les plaisirs qu'on a dans le sommeil, on ne les fait pas figurer dans le compte des plaisirs éprouvés au cours de l'existence. pour ne faire allusion qu'au plus vulgairement sensuel de tous, qui de nous, au réveil, n'a ressenti quelque agacement d'avoir éprouvé, en dormant, un plaisir que, si l'on ne veut pas trop se fatiguer, on ne peut plus, une fois éveillé, renouveler indéfiniment ce jour-là. C'est comme du bien perdu. On a eu du plaisir dans une autre vie qui n'est pas la nôtre. Souffrance et plaisir du rêve, qui généralement s'évanouissent bien vite au réveil. Si nous les faisons figurer dans un budget, ce n'est pas dans celui de la vie courante. J'ai dit deux temps. Peut-être n'y en a-t-il qu'un seul. Non que celui de l'homme éveillé soit valable pour le dormeur, mais peut-être parce que l'autre vie, celle où on dort, n'est pas, dans sa partie profonde, soumise à la catégorie du temps. Je me le figurais quand, au lendemain des dîners à la Raspelière, je m'endormais si complètement. Voilà pourquoi je commençais à me désespérer au réveil en voyant qu'après que j'avais sonné 10 fois, le valet de chambre n'était pas venu. À la 11e, il entrait. Ce n'était que la première. Les 10 autres n'étaient que des ébauches, dans mon sommeil qui durait encore, du coup de sonnette que je voulais. Mes mains gourdes n'avaient seulement pas bougé. Or, ces matins-là, et c'est ce qui me fait dire que le sommeil ignore peut-être la loi du temps, mon effort pour m'éveiller consistait surtout en un effort pour faire entrer le bloc obscur, non défini, du sommeil que je venais de vivre au cadre du temps. Ce n'est pas tâche facile. Le sommeil, qui ne sait si nous avons dormi 2 heures ou 2 jours, ne peut nous fournir aucun point de repère. Et si nous n'en trouvons pas au dehors, ne parvenant pas à rentrer dans le temps, nous nous rendormons pour 5 minutes, qui nous semblent 3 heures. J'ai toujours dit, et expérimenté, que le plus puissant des hypnotiques est le sommeil. Après avoir dormi profondément 2 heures, s'être battu avec tant de géants et avoir noué pour toujours tant d'amitiés, il est bien plus difficile de s'éveiller qu'après avoir pris plusieurs grammes de Véronal. Aussi, raisonnant de l'un à l'autre, je fus surpris d'apprendre, par le philosophe norvégien qui le tenait de M. Boutroux, son éminent collègue, pardon, son confrère, ce que M. Bergson pensait des altérations particulières de la mémoire dues aux hypnotiques. « Bien entendu, » aurait dit M. Bergson à M. Boutroux. À en croire le philosophe norvégien, les hypnotiques pris de temps en temps à dose modérée n'ont pas d'influence sur cette solide mémoire de notre vie de tous les jours, si bien installée en nous. Mais il est d'autres mémoires, plus hautes, plus instables aussi. Un de mes collègues fait un cours d'histoire ancienne. Il m'a dit que si, la veille, il avait pris un cachet pour dormir, il avait de la peine pendant son cours à retrouver les citations grecques dont il avait besoin. Le docteur qui lui avait recommandé ces cachets lui assura qu'ils étaient sans influence sur la mémoire. C'est peut-être que vous n'avez pas affaire de citations grecques, lui avait répondu l'historien, non sans un orgueil moqueur. Je ne sais si cette conversation entre M. Bergson et M. Boutroux est exacte. Le philosophe norvégien, pourtant si profond et si clair, si passionnément attentif, a pu mal comprendre. Personnellement, mon expérience m'a donné des résultats opposés. Les moments d'oubli qui suivent le lendemain l'ingestion de certains narcotiques ont une ressemblance partielle seulement, mais troublante, avec l'oubli qui règne au cours d'une nuit de sommeil naturel et profond. Or, ce que j'oublie dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas tel vers de Baudelaire qui me fatigue plutôt, ainsi qu'un tympanon, ce n'est pas tel concept d'un des philosophes cités, c'est la réalité elle-même des choses vulgaires qui m'entourent, si je dors, et dont la non-perception fait de moi un fou. C'est, si je suis éveillé et sors à la suite d'un sommeil artificiel, non pas le système de Porphyre ou de Plotin, dont je puis discuter aussi bien qu'un autre jour, Mais la réponse que j'ai promis de donner à une invitation, au souvenir de laquelle s'est substitué un pur blanc. L'idée élevée est restée à sa place. Ce que l'hypnotique a mis hors d'usage, c'est le pouvoir d'agir dans les petites choses, dans tout ce qui demande de l'activité pour ressaisir juste à temps pour empoigner tel souvenir de la vie de tous les jours. Malgré tout ce qu'on peut dire de la survie après la destruction du cerveau, je remarque qu'à chaque altération du cerveau correspond un fragment de mort. Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les rappeler. Dit, d'après M. Bergson, le grand philosophe norvégien, dont je n'ai pas essayé, pour ne pas ralentir encore, d'imiter le langage. Sinon, la faculté de se les rappeler. Mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas? Ou bien, allons plus loin, nous ne nous rappelons pas nos souvenirs des 30 dernières années, mais ils nous baignent tout entiers. Pourquoi alors s'arrêter à 30 années? Pourquoi ne pas prolonger jusqu'au-delà de la naissance cette vie antérieure? Du moment que je ne connais pas toute une partie des souvenirs qui sont derrière moi, du moment qu'ils me sont invisibles, que je n'ai pas la faculté de les appeler à moi, qui me dit que, dans cette masse inconnue de moi, il n'y en a pas qui remontent à bien au-delà de ma vie humaine? Si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas, cet oubli, du moins oubli de fait, puisque je n'ai pas la faculté de rien voir, peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Un même oubli efface tout. Mais alors, que signifie cette immortalité de l'âme dont le philosophe norvégien affirmait la réalité? L'être que je serai après la mort n'a pas plus de raison de se souvenir de l'homme que je suis depuis ma naissance que ce dernier ne se souvient de ce que j'ai été avant elle. Le valet de chambre entrait. Je ne lui disais pas que j'avais sonné plusieurs fois, car je me rendais compte que je n'avais fait jusque-là que le rêve que je sonnais. J'étais effrayée pourtant de penser que ce rêve avait eu la netteté de la connaissance. La connaissance aurait-elle, réciproquement, l'irréalité du rêve? En revanche, je lui demandais qui avait tant sonné cette nuit. Il me disait « personne » et pouvait l'affirmer car le tableau des sonneries eut marqué. Pourtant, j'entendais les coups répétés, presque furieux, qui vibraient encore dans mon oreille et devaient me rester perceptibles pendant plusieurs jours. Il est pourtant rare que le sommeil jette ainsi dans la vie éveillée des souvenirs qui ne meurent pas avec lui. On peut compter ces aérolithes. Si c'est une idée que le sommeil a forgée, elle se dissocie très vite en fragments ténus, irretrouvables. Mais là, le sommeil avait fabriqué des sons. Plus matériels et plus simples, ils duraient davantage. J'étais étonnée de l'heure relativement matinale que me disait le valet de chambre. Je n'en étais pas moins reposée. Ce sont les sommeils légers qui ont une longue durée, parce qu'intermédiaires entre la veille et le sommeil, gardant de la première une notion un peu effacée mais permanente, il leur faut infiniment plus de temps pour nous reposer qu'un sommeil profond, lequel peut être court. Je me sentais bien à mon aise pour une autre raison. S'il suffit de se rappeler qu'on s'est fatigué pour sentir péniblement sa fatigue, se dire « je me suis reposé » suffit à créer le repos. Or, j'avais rêvé que M. de Charlus avait 110 ans et venait de donner une paire de claques à sa propre mère. De Mme Verdurin qu'elle avait acheté 5 milliards un bouquet de violettes. J'étais donc assurée d'avoir dormi profondément, rêvé à rebours de mes notions de la veille et de toutes les possibilités de la vie courante. Cela suffisait pour que je me sentisse tout reposée. J'aurais bien étonné ma mère, qui ne pouvait comprendre l'assiduité de M. de Charlus chez les Verdurin, si je lui avais raconté, précisément le jour où avait été commandée la toque d'Albertine, sans rien lui en dire et pour qu'elle en eût la surprise, Avec qui M. de Charlus était venu dîner dans un salon au grand hôtel de Balbec? L'invité n'était autre que le valet de pied d'une cousine des Cambremer. Ce valet de pied était habillé avec une grande élégance. Et quand il traversa le hall avec le baron, il fit homme du monde aux yeux des touristes, comme aurait dit Saint-Loup. Mais les jeunes chasseurs, les lévites qui descendaient en foule les degrés du temple à ce moment, parce que c'était celui de la relève, ne firent pas attention aux deux arrivants, dont l'un, M. de Charlus, tenait, en baissant les yeux, à montrer qu'il leur en accordait très peu. Il avait l'air de se frayer un passage au milieu d'eux. « Prospérez, cher espoir d'une nation sainte !» dit-il en se rappelant des vers de Racine, cités dans un tout autre sens. « Plaît-il ? » demanda le valet de pied, peu au courant des classiques. Monsieur de Charlus ne lui répondit pas, car il mettait un certain orgueil à ne pas tenir compte des questions et à marcher droit devant lui, comme s'il n'y avait pas eu d'autres clients de l'hôtel et s'il n'existait au monde que lui, baron de Charlus. Mais, ayant continué les vers de Josabet, « Venez, venez, mes filles !» Il se sentit dégoûté et n'ajouta pas comme elle « Il faut les appeler !» Car ces jeunes enfants n'avaient pas encore atteint l'âge où le sexe est entièrement formé et qui plaisait à M. de Charlus. D'ailleurs, s'il avait écrit au valet de pied de Mme de Chevreny, parce qu'il ne doutait pas de sa docilité, il l'avait espéré plus viril. Il le trouvait, à le voir, plus efféminé qu'il n'eût voulu. Il lui dit qu'il aurait cru avoir affaire à quelqu'un d'autre, car il connaissait de vue un autre valet de pied de Mme de Chevreny, qu'en effet il avait remarqué sur la voiture. C'était une espèce de paysan fort rusto, tout l'opposé de celui-ci, qui, estimant au contraire ses mièvreries autant de supériorité, et ne doutant pas que ce fût ses qualités d'homme du monde qui eussent séduit M. de Charlus, ne comprit même pas de qui le baron voulait parler. « Mais je n'ai aucun camarade qu'un que vous ne pouvez pas avoir reluqué. Il est affreux, il a l'air d'un gros paysan. » Et à l'idée que c'était peut-être ce rustre que le baron avait vu, il éprouva une piqûre d'amour-propre. Le baron la devina, et élargissant son enquête. « Mais je n'ai pas fait un vœu spécial de ne connaître que des gens de Madame de Chevreny, » dit-il. « Est-ce que ici ou à Paris, puisque vous partez bientôt, vous ne pourriez pas me présenter beaucoup de vos camarades d'une maison ou d'une autre ?»« Oh non !» répondit le valet de pied. « Je ne fréquente personne de ma classe. Je ne leur parle que pour le service. Mais il y a quelqu'un de très bien que je pourrais vous faire connaître. Qui ?» demanda le baron. « Le prince de Guermantes. » Monsieur de Charlus fut dépité qu'on ne lui offrit qu'un homme de cet âge, et pour lequel, du reste, il n'avait pas besoin de la recommandation d'un valet de pied. Aussi déclina-t-il l'offre d'un ton sec, et, ne se laissant pas décourager par les prétentions mondaines du larbin, recommença à lui expliquer ce qu'il voudrait, le genre, le type, soit un jockey, etc. Craignant que le notaire, qui passait à ce moment-là, ne l'eût entendu, il crut fin de montrer qu'il parlait de tout autre chose que de ce qu'on aurait pu croire, et dit avec insistance et à la cantonade, mais comme s'il ne faisait que continuer sa conversation, « Oui, malgré mon âge, j'ai gardé le goût de bibeloter, le goût des jolis bibelots. Je fais des folies pour un vieux bronze, pour un lustre ancien. J'adore le beau. » Mais pour faire comprendre au valet de pied le changement de sujet qu'il avait exécuté si rapidement, M. de Charlus pesait tellement sur chaque mot, et de plus, pour être entendu du notaire, il les criait tous si fort, que tout ce jeu de scène eût suffi à déceler ce qu'il cachait pour des oreilles plus averties que celles de l'officier ministériel. Celui-ci ne se douta de rien, non plus qu'aucun autre client de l'hôtel, qui virent tous un élégant étranger dans le valet de pied si bien mis. En revanche, si les hommes du monde s'y trompèrent et le prirent pour un Américain très chic, À peine parut-il devant les domestiques qu'il fut deviné par eux, comme un forçat reconnaît un forçat, même plus vite, flairé à distance comme un animal par certains animaux. Les chefs de rang levèrent l'œil. Aimé jeta un regard soupçonneux. Le sommelier, haussant les épaules, dit derrière sa main, parce qu'il crut cela de la politesse, une phrase désobligeante que tout le monde entendit. Et même notre vieille Françoise, dont la vue baissait et qui passait à ce moment-là au pied de l'escalier pour aller dîner au courrier, leva la tête, reconnut un domestique, là où des convives de l'hôtel ne le soupçonnaient pas. Comme la vieille nourrice Riclée reconnaît Ulysse bien avant les prétendants assis au festin. Et, voyant marcher familièrement avec lui Monsieur de Charlus, eut une expression accablée, comme si tout d'un coup des méchancetés qu'elle avait entendu dire et n'avait pas cru eussent acquis à ses yeux une navrante vraisemblance. Elle ne me parla jamais, ni à personne, de cet incident. Mais il dut faire à son cerveau un travail considérable, car plus tard, chaque fois qu'à Paris elle eut l'occasion de voir Jupien, qu'elle avait jusque-là tant aimé, elle eut toujours avec lui de la politesse, mais qui avait refroidi, et était toujours additionnée d'une forte dose de réserve. Ce même incident amena, au contraire, quelqu'un d'autre à me faire une confidence. Ce fut Aimé. Quand j'avais croisé M. de Charlus, celui-ci, qui n'avait pas cru me rencontrer, me cria en levant la main « Bonsoir !» avec l'indifférence, apparente du moins, d'un grand seigneur qui se croit tout permis et qui trouve plus habile d'avoir l'air de ne pas se cacher. Or, Aimé, qui à ce moment l'observait d'un œil méchant et qui vit que je saluais le compagnon de celui en qui il était certain de voir un domestique, me demanda le soir même qui c'était. Car depuis quelque temps, Aimé aimait à causer, ou plutôt, comme il disait, sans doute pour marquer le caractère selon lui philosophique de ses causeries, à discuter avec moi. Et comme je lui disais souvent que j'étais gênée qu'il restât debout près de moi pendant que je dînais, au lieu qu'il pût s'asseoir et partager mon repas, il déclarait qu'il n'avait jamais vu un client ayant le raisonnement aussi juste. Il causait en ce moment avec deux garçons. Ils m'avaient salué, je ne savais pas pourquoi. Leur visage m'était inconnu, bien que dans leur conversation résonnât une rumeur qui ne me semblait pas nouvelle. Aimé les morigénait tous deux à cause de leurs fiançailles, qu'ils désapprouvaient. Il me prit à témoin. Je dis que je ne pouvais avoir d'opinion, ne les connaissant pas. Ils me rappelèrent leurs noms, qu'ils m'avaient souvent servi à Rivebelle. L'un avait laissé pousser sa moustache, l'autre l'avait rasée et s'était fait tondre. Et à cause de cela, bien que ce fût leur tête d'autrefois qui était posée sur leurs épaules, et non une autre comme dans les restaurations fautives de Notre-Dame, elle m'était restée aussi invisible que ces objets qui échappent aux perquisitions les plus minutieuses, et qui traînent simplement aux yeux de tous, lesquels ne les remarquent pas, sur une cheminée. Dès que je sus leur nom, je reconnus exactement la musique incertaine de leur voix, parce que je revis leur ancien visage qui la déterminait. « Ils veulent se marier, et ils ne savent seulement pas l'anglais !» me dit Aimé, qui ne songeait pas que j'étais peu au courant de la profession hôtelière, et comprenait mal que, si on ne sait pas les langues étrangères, on ne peut pas compter sur une situation. Moi qui croyais qu'il saurait aisément que le nouveau dîneur était M. de Charlus, et me figurais même qu'il devait se le rappeler, l'ayant servi dans la salle à manger quand le baron était venu, pendant mon premier séjour à Balbec, voir Madame de Villeparisis, je lui dis son nom. Or, non seulement Aimé ne se rappelait pas le baron de Charlus, mais ce nom parut lui produire une impression profonde. Il me dit qu'il chercherait le lendemain dans ses affaires une lettre que je pourrais peut-être lui expliquer. Je fus d'autant plus étonné que M. de Charlus, quand il avait voulu me donner un livre de Bergotte, à Balbec la première année, avait fait spécialement demander Aimé, qu'il avait dû retrouver ensuite dans ce restaurant de Paris où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et sa maîtresse, et où M. de Charlus était venu nous espionner. Il est vrai qu'Aimé n'avait pu accomplir en personne ses missions, étant une fois couché et la seconde fois en train de servir. J'avais pourtant de grands doutes sur sa sincérité quand il prétendait ne pas connaître M. de Charlus. D'une part, il avait dû convenir au baron. Comme tous les chefs d'étage de l'hôtel de Balbec, comme plusieurs valets de chambre du prince de Guermantes, Aimé appartenait à une race plus ancienne que celle du prince, donc plus noble. Quand on demandait un salon, on se croyait d'abord seul. Mais bientôt, dans l'office, on apercevait un sculptural maître d'hôtel, de ce genre étrusque roux dont Aimé était le type, un peu vieilli par les excès de champagne et voyant venir l'heure nécessaire de l'eau de Contrexéville. Tous les clients ne leur demandaient pas que de les servir. Les commis, qui étaient jeunes, scrupuleux, pressés, attendus par une maîtresse en ville, se dérobaient. Aussi, Aimé leur reprochait-il de n'être pas sérieux. Il en avait le droit. Sérieux, lui, il l'était. Il avait une femme et des enfants, de l'ambition pour eux. Aussi, les avances qu'une étrangère ou un étranger lui faisait, il ne les repoussait pas. Fallut-il rester toute la nuit, car le travail doit passer avant tout. Il avait tellement le genre qui pouvait plaire à M. de Charlus que je le soupçonnais de mensonge quand il me dit ne pas le connaître. Je me trompais. C'est en toute vérité que le groom avait dit au baron qu'Aimé, qui lui avait passé un savon le lendemain, était couché ou sorti, et l'autre fois en train de servir. Mais l'imagination suppose au-delà de la réalité. Et l'embarras du groom avait probablement excité chez M. de Charlus, quant à la sincérité de ses excuses, des doutes qui avaient blessé chez lui des sentiments qu'Aimé ne soupçonnait pas. On a vu aussi que Saint-Loup avait empêché Aimé d'aller à la voiture où M. de Charlus, qui, je ne sais comment, s'était procuré la nouvelle adresse du maître d'hôtel, avait éprouvé une nouvelle déception. Aimé, qui ne l'avait pas remarqué, éprouva un étonnement qu'on peut concevoir quand, le soir même du jour où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et sa maîtresse, il reçut une lettre fermée par un cachet aux armes de Guermantes, et dont je citerai ici quelques passages comme exemple de folie unilatérale chez un homme intelligent s'adressant à un imbécile sensé. « Monsieur, je n'ai pu réussir, malgré des efforts qui étonneraient bien des gens cherchant inutilement à être reçus et salués par moi, à obtenir que vous écoutiez les quelques explications que vous ne me demandiez pas, mais que je croyais de ma dignité et de la vôtre de vous offrir. Je vais donc écrire ici ce qu'il eût été plus aisé de vous dire de vive voix. Je ne vous cacherai pas que, la première fois que je vous ai vu à Balbec, votre figure m'a été franchement antipathique. » Suivaient alors des réflexions sur la ressemblance, remarquée le second jour seulement, avec un ami défunt pour qui M. de Charlus avait eu une grande affection. J'avais eu alors un moment l'idée que vous pouviez, sans gêner en rien votre profession, venir en faisant avec moi les parties de cartes avec lesquelles sa gaieté savait dissiper ma tristesse, me donner l'illusion qu'il n'était pas mort. Quelle que soit la nature des suppositions plus ou moins sottes que vous avez probablement faites et plus à la portée d'un serviteur, qui ne mérite même pas ce nom puisqu'il n'a pas voulu servir, que la compréhension d'un sentiment si élevé, vous avez probablement cru vous donner de l'importance, ignorant qui j'étais et ce que j'étais, en me faisant répondre, quand je vous faisais demander un livre, que vous étiez couché. Or, c'est une erreur de croire qu'un mauvais procédé ajoute jamais à la grâce, dont vous êtes d'ailleurs entièrement dépourvu. J'aurais brisé là, si par hasard, le lendemain matin, je ne vous avais pu parler. Votre ressemblance avec mon pauvre ami s'accentua tellement, faisant disparaître jusqu'à la forme insupportable de votre menton proéminent, que je compris que c'était le défunt qui, à ce moment, vous prêtait de son expression si bonne, afin de vous permettre de me ressaisir et de vous empêcher de manquer la chance unique qui s'offrait à vous. En effet, quoique je ne veuille pas, puisque tout cela n'a plus d'objet et que je n'aurai plus l'occasion de vous rencontrer en cette vie, mêler à tout cela de brutales questions d'intérêt. J'aurais été trop heureux d'obéir à la prière du mort, car je crois à la communion des saints et à leur velléité d'intervention dans le destin des vivants. D'agir avec vous comme avec lui, qui avait sa voiture, ses domestiques, et à qui il était bien naturel que je consacrasse la plus grande partie de mes revenus, puisque je l'aimais comme un fils. Vous en avez décidé autrement. À ma demande que vous me rapportiez un livre, vous avez fait répondre que vous aviez à sortir. Et ce matin, quand je vous ai fait demander de venir à ma voiture, vous m'avez, si je peux parler ainsi sans sacrilège, renié pour la troisième fois. Vous m'excuserez de ne pas mettre dans cette enveloppe les pourboires élevés que je comptais vous donner à Balbec, et auxquels il me serait trop pénible de m'en tenir à l'égard de quelqu'un avec qui j'avais cru un moment tout partager. Tout au plus, pourriez-vous m'éviter de faire auprès de vous, dans votre restaurant, une quatrième tentative inutile, et jusqu'à laquelle ma patience n'ira pas. Et ici, M. de Charlus donnait son adresse, l'indication des heures où on le trouverait, etc. Adieu, monsieur. Comme je crois que, ressemblant tant à l'ami que j'ai perdu, vous ne pouvez être entièrement stupide, sans quoi la physiognomonie serait une science fausse, je suis persuadé qu'un jour, si vous repensez à cet incident, ce ne sera pas sans éprouver quelques regrets et quelques remords. Pour ma part, croyez que bien sincèrement je n'en garde aucune amertume. J'aurais mieux aimé que nous nous quittions sur un moins mauvais souvenir que cette troisième démarche inutile. Elle sera vite oubliée. Nous sommes comme ces vaisseaux que vous avez dû apercevoir parfois de Balbec, qui se sont croisés un moment. Il eût pu y avoir avantage pour chacun d'eux à stopper, mais l'un a jugé différemment. Bientôt ils ne s'apercevront même plus à l'horizon, et la rencontre est effacée. Mais avant cette séparation définitive, chacun salue l'autre, et c'est ce que fait ici, monsieur, en vous souhaitant bonne chance, le baron de Charlus. Aimé n'avait pas même lu cette lettre jusqu'au bout, n'y comprenant rien et se méfiant d'une mystification. Quand je lui eus expliqué qui était le baron, il parut quelque peu rêveur et éprouva ce regret que M. de Charlus lui avait prédit. Je ne jurerais même pas qu'il n'eût alors écrit pour s'excuser à un homme qui donnait des voitures à ses amis. Mais dans l'intervalle, M. de Charlus avait fait la connaissance de Morel. Tout au plus, les relations avec celui-ci étant peut-être platoniques, M. de Charlus recherchait-il parfois, pour un soir, une compagnie comme celle dans laquelle je venais de le rencontrer dans le hall. Mais il ne pouvait plus détourner de Morel le sentiment violent qui, libre quelques années plus tôt, n'avait demandé qu'à se fixer sur Aimé, et qui avait dicté la lettre dont j'étais gênée pour M. de Charlus et que m'avait montré le maître d'hôtel. Elle était, à cause de l'amour antisocial qu'était celui de M. de Charlus, un exemple plus frappant de la force insensible et puissante qu'ont ces courants de la passion, et par lesquels l'amoureux, comme un nageur entraîné sans s'en apercevoir, bien vite perd de vue la terre. Sans doute, l'amour d'un homme normal peut aussi, quand l'amoureux, par l'intervention successive de ses désirs, de ses regrets, de ses déceptions, de ses projets, construit tout un roman sur une femme qu'il ne connaît pas, permettre de mesurer un assez notable écartement de deux branches de compas. Tout de même, un tel écartement était singulièrement élargi par le caractère d'une passion qui n'est pas généralement partagée, et par la différence des conditions de M. de Charlus et d'Aimé. Tous les jours, je sortais avec Albertine. Elle s'était décidée à se remettre à la peinture et avait d'abord choisi, pour travailler, l'église Saint-Jean de la Haize, qui n'est plus fréquentée par personne et est connue de très peu. Difficile à se faire indiquer, impossible à découvrir sans être guidé, longue à atteindre dans son isolement, à plus d'une demi-heure de la station d'Épreville. Les dernières maisons du village de Quetteholm depuis longtemps passées. Pour le nom d'Épreville, je ne trouvais pas d'accord le livre du curé et les renseignements de Brichot. D'après l'un, Épreville était l'ancienne Sprévilla. L'autre indiquait comme étymologie Aprivilla. La première fois, nous prîmes un petit chemin de fer dans la direction opposée à Féterne, c'est-à-dire vers Gratvast. Mais c'était la canicule, et ça avait déjà été terrible de partir tout de suite après le déjeuner. J'eusse mieux aimé ne pas sortir si tôt. L'air, lumineux et brûlant, éveillait des idées d'indolence et de rafraîchissement. Il remplissait nos chambres, à ma mère et à moi, selon leur exposition, à des températures inégales, comme des chambres de balnéation. Le cabinet de toilette de maman, festonné par le soleil, d'une blancheur éclatante et mauresque, avait l'air plongé au fond d'un puits, à cause des quatre murs en plâtras sur lesquels il donnait, tandis que tout en haut, dans le carré laissé vide, le ciel, dont on voyait glisser, les uns par-dessus les autres, les flots moelleux et superposés, semblait, à cause du désir qu'on avait, situé sur une terrasse où, vue à l'envers dans quelques glaces accrochées à la fenêtre, une piscine pleine d'une eau bleue réservée aux ablutions. Malgré cette brûlante température, nous avions été prendre le train d'une heure. Mais Albertine avait eu très chaud dans le wagon, plus encore dans le long trajet à pied, et j'avais peur qu'elle ne prît froid en restant ensuite immobile dans ce creux humide que le soleil n'atteint pas. D'autre part, et dès nos premières visites à Elstir, m'étant rendu compte qu'elle eût apprécié non seulement le luxe, mais même un certain confort dont son manque d'argent la privait, je m'étais entendu avec un loueur de Balbec afin que tous les jours une voiture vînt nous prendre. Pour avoir moins chaud, nous prenions par la forêt de Chantepie. L'invisibilité des innombrables oiseaux, quelques-uns à demi marins, qui s'y répondaient à côté de nous dans les arbres, donnait la même impression de repos qu'on a les yeux fermés. À côté d'Albertine, enchaînée par ses bras au fond de la voiture, j'écoutais ses océanides. Et quand par hasard j'apercevais l'un de ces musiciens qui passait d'une feuille sous une autre, il y avait si peu de lien apparent entre lui et ses chants que je ne croyais pas voir la cause de ceci dans le petit corps sautillant, humble, étonné et sans regard. La voiture ne pouvait pas nous conduire jusqu'à l'église. Je la faisais arrêter au sortir de Quetteholm et je disais au revoir à Albertine. Car elle m'avait effrayée en me disant de cette église, comme d'autres monuments, de certains tableaux, « Quel plaisir ce serait de voir cela avec vous !» Ce plaisir-là, je ne me sentais pas capable de le donner. Je n'en ressentais devant les belles choses que si j'étais seule, ou feignais de l'être, et me taisais. Mais puisqu'elle avait cru pouvoir éprouver, grâce à moi, des sensations d'art qui ne se communiquent pas ainsi, je trouvais plus prudent de lui dire que je la quittais, viendrais la rechercher à la fin de la journée, mais que d'ici là il fallait que je retournasse avec la voiture faire une visite à Madame Verdurin ou au Cambremer, ou même passer une heure avec maman à Balbec, mais jamais plus loin. Du moins les premiers temps. Car Albertine, m'ayant une fois dit par caprice, « C'est ennuyeux que la nature ait si mal fait les choses, et qu'elle ait mis Saint-Jean de la Haize d'un côté, la Raspelière d'un autre, qu'on soit pour toute la journée emprisonné dans l'endroit qu'on a choisi. » Dès que j'eus reçu la toque et le voile, je commandai, pour mon malheur, une automobile à Saint-Fargeau. Sanctus Ferreolus, selon le livre du curé. Albertine, laissée par moi dans l'ignorance, et qui était venue me chercher, fut surprise en entendant devant l'hôtel le ronflement du moteur, ravie quand elle sut que cette auto était pour nous. Je la fis monter un instant dans ma chambre. Elle sautait de joie. « Nous allons faire une visite au Verdurin ?»« Oui, mais il vaut mieux que vous n'y alliez pas dans cette tenue, puisque vous allez avoir votre auto. Tenez, vous serez mieux ainsi. » Et je sortis la toque et le voile que j'avais cachés. « C'est à moi ? Oh, ce que vous êtes gentil !» s'écria-t-elle en me sautant au cou. Aimé, nous rencontrant dans l'escalier, fier de l'élégance d'Albertine et de notre moyen de transport, car ces voitures étaient assez rares à Balbec, se donna le plaisir de descendre derrière nous. Albertine, désirant être vue un peu dans sa nouvelle toilette, me demanda de faire relever la capote, qu'on baisserait ensuite pour que nous soyons plus librement ensemble. « Allons, » dit Aimé au mécanicien, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas et qui n'avait pas bougé. « Tu n'entends pas qu'on te dit de relever ta capote ?» Car Aimé, dessalé par la vie d'hôtel, où il avait conquis du reste un rang éminent, n'était pas aussi timide que le cocher de fiacre pour qui Françoise était une dame. Malgré le manque de présentation préalable, les plébéiens qu'il n'avait jamais vus, il les tutoyait, sans qu'on sût trop si c'était de sa part dédain aristocratique ou fraternité populaire. « Je ne suis pas libre, » répondit le chauffeur, qui ne me connaissait pas. « Je suis commandé pour Mademoiselle Simonet. Je ne peux pas conduire, monsieur. » Aimé s'esclaffa. « Mais voyons, grand gourdiflot, » répondit-il au mécanicien, qu'il convainquit aussitôt. « C'est justement Mademoiselle Simonet. Et monsieur, qui te commande de lever ta capote, est justement ton patron. » Et comme Aimé, quoique n'ayant pas personnellement de sympathie pour Albertine, était à cause de moi fier de la toilette qu'elle portait, il glissa au chauffeur. « T'en conduirais bien tous les jours, hein, si tu pouvais, des princesses comme ça. » Cette première fois, ce ne fut pas moi seul qui put aller à la Raspelière, comme je fis d'autres jours pendant qu'Albertine peignait. Elle voulut y venir avec moi. Elle pensait bien que nous pourrions nous arrêter ça et là sur la route, mais croyait impossible de commencer par aller à Saint-Jean-de-la-Hèze, c'est-à-dire dans une autre direction, et de faire une promenade qui semblait vouée à un jour différent. Elle apprit au contraire du mécanicien que rien n'était plus facile que d'aller à Saint-Jean, où il serait en 20 minutes, et que nous y pourrions rester, si nous le voulions, plusieurs heures, ou pousser beaucoup plus loin, car de Quête-Holme à la Raspelière, il ne mettrait pas plus de 35 minutes. Nous le comprîmes dès que la voiture, s'élançant, franchit d'un seul bond 20 pas d'un excellent cheval. Les distances ne sont que le rapport de l'espace au temps, et varient avec lui. Nous exprimons la difficulté que nous avons à nous rendre à un endroit, dans un système de lieues, de kilomètres, qui devient faux dès que cette difficulté diminue. L'art en est aussi modifié, puisqu'un village, qui semblait dans un autre monde que tel autre, devient son voisin dans un paysage dont les dimensions sont changées. En tout cas, apprendre qu'il existe peut-être un univers où 2 et 2 font 5 et où la ligne droite n'est pas le chemin le plus court d'un point à un autre, eut beaucoup moins étonné Albertine que d'entendre le mécanicien lui dire qu'il était facile d'aller dans une même après-midi à Saint-Jean et à la Raspelière. Douville et Quête-Holme, Saint-Marc-le-Vieux et Saint-Marc-le-Vétu, Gourville et Balbec-le-Vieux, Tourville et Féterne, prisonniers aussi hermétiquement enfermés jusque-là dans la cellule de jour distinct que jadis mes églises égarmentes, et sur lesquels les mêmes yeux ne pouvaient se poser dans un seul après-midi, délivrés maintenant par le géant aux bottes de 7 lieues. Vinrent assembler autour de l'heure de notre goûter leurs clochers et leurs tours, leurs vieux jardins que le bois avoisinant s'empressait de découvrir. Arrivé au bas de la route de la Corniche, l'auto monta d'un seul trait, avec un bruit continu comme un couteau qu'on repasse, tandis que la mer, abaissée, s'élargissait au-dessous de nous. Les maisons anciennes et rustiques de Mont-sur-Vent accoururent en tenant serrées contre elles leurs vignes ou leurs rosiers. Les sapins de la Raspelière, plus agités que quand s'est levé le vent du soir, coururent dans tous les sens pour nous éviter. Et un domestique nouveau, que je n'avais encore jamais vu, vint nous ouvrir au perron, pendant que le fils du jardinier, trahissant des dispositions précoces, dévorait les yeux la place du moteur. Comme ce n'était pas un lundi, nous ne savions pas si nous trouverions Madame Verdurin, car, sauf ce jour-là où elle recevait, il était imprudent d'aller la voir à l'improviste. Sans doute, elle restait chez elle, en principe. Mais cette expression, que Madame Swann employait au temps où elle cherchait elle aussi à se faire son petit clan et à attirer les clients en ne bougeant pas, dut-elle souvent ne pas faire ses frais, et qu'elle traduisait avec contresens en « par principe » et signifiait seulement « en règle générale », c'est-à-dire avec de nombreuses exceptions. Car non seulement Madame Verdurin aimait à sortir, mais elle poussait fort loin les devoirs de l'hôtesse, et quand elle avait eu du monde à déjeuner, aussitôt après le café, les liqueurs et les cigarettes, malgré le premier engourdissement de la chaleur et de la digestion, où on eût mieux aimé, à travers les feuillages de la terrasse, regarder le paquebot de Jersey passer sur la mer des mailles. Le programme comprenait une suite de promenades, au cours desquelles les convives, installés de force en voiture, étaient emmenés, malgré eux, vers l'un ou l'autre des points de vue qui foisonnent autour de Douville. Cette deuxième partie de la fête n'était pas, du reste, l'effort de se lever et de monter en voiture accompli, celle qui plaisait le moins aux invités, déjà préparés par les mets succulents, les vins fins ou le cidre mousseux, à se laisser facilement griser par la pureté de la brise et la magnificence des sites. Madame Verdurin faisait visiter ceci aux étrangers, un peu comme des annexes, plus ou moins lointaines, de sa propriété, et qu'on ne pouvait pas ne pas aller voir du moment qu'on venait déjeuner chez elle, et réciproquement, qu'on n'aurait pas connu si on n'avait pas été reçu chez la patronne. Cette prétention de s'arroger un droit unique sur les promenades, comme sur le jeu de Morel et jadis de Dechambre, et de contraindre les paysages à faire partie du petit clan, n'était pas du reste aussi absurde qu'elle semble au premier abord. Madame Verdurin se moquait non seulement de l'absence de goût que, selon elle, les cambremères montraient dans l'ameublement de la Raspelière et l'arrangement du jardin, mais encore de leur manque d'initiative dans les promenades qu'ils faisaient ou faisaient faire aux environs. De même que, selon elle, la Raspelière ne commençait à devenir ce qu'elle aurait dû être que depuis qu'elle était l'asile du petit clan. De même, elle affirmait que les cambremères, refaisant perpétuellement dans leur calèche le long du chemin de fer au bord de la mer la seule vilaine route qu'il y eût dans les avirons, habitaient le pays de tout temps mais ne le connaissaient pas. Il y avait du vrai dans cette assertion. Par routine, défaut d'imagination, incuriosité d'une région qui semble rebattue parce qu'elle est si voisine, les cambremères ne sortaient de chez eux que pour aller toujours aux mêmes endroits et par les mêmes chemins. Certes, ils riaient beaucoup de la prétention des Verdurins de leur apprendre leur propre pays. Mais, mis au pied du mur, eux et même leur cocher eussent été incapables de nous conduire aux splendides endroits, un peu secrets, où nous menait M. Verdurin, levant ici la barrière d'une propriété privée, mais abandonnée, où d'autres n'eussent pas cru pouvoir s'aventurer. Là, descendant de voiture pour suivre un chemin qui n'était pas carrossable, mais tout cela avec la récompense certaine d'un paysage merveilleux. Disons, du reste, que le jardin de la Raspelière était en quelque sorte un abrégé de toutes les promenades qu'on pouvait faire à bien des kilomètres alentour. D'abord, à cause de sa position dominante, regardant d'un côté la vallée, de l'autre la mer. Et puis, parce que, même d'un seul côté, celui de la mer par exemple, des percées avaient été faites au milieu des arbres de telle façon que d'ici on embrassait tel horizon, de là tel autre. il y avait à chacun de ces points de vue un banc. On venait s'asseoir tour à tour sur celui d'où on découvrait Balbec ou Parville ou Douville. Même dans une seule direction avait été placé un banc plus ou moins à pic sur la falaise, plus ou moins en retrait. De ces derniers, on avait un premier plan de verdure et un horizon qui semblait déjà le plus vaste possible, mais qui s'agrandissait infiniment si, continuant par un petit sentier, on allait jusqu'à un banc suivant d'où l'on embrassait tout le cirque de la mer. Là, on percevait exactement le bruit des vagues, qui ne parvenaient pas au contraire dans les parties les plus enfoncées du jardin, là où le flot se laissait voir encore, mais non plus entendre. Ces lieux de repos portaient à la Raspelière, pour les maîtres de maison, le nom de « vue ». Et en effet, ils réunissaient autour du château les plus belles vues des pays avoisinants, des plages ou des forêts, aperçues fort diminuées par l'éloignement, comme Adrien avait assemblé dans sa villa des réductions des monuments les plus célèbres des diverses contrées. Le nom qui suivait le mot « vue » n'était pas forcément celui d'un lieu de la côte, mais souvent de la rive opposée de la baie et qu'on découvrait, gardant un certain relief malgré l'étendue du panorama. De même qu'on prenait un ouvrage dans la bibliothèque de M. Verdurin pour aller lire une heure à la vue de Balbec, de même, si le temps était clair, on allait prendre des liqueurs à la vue de Rivebelle, à condition pourtant qu'il ne fût pas trop de vent, car malgré les arbres plantés de chaque côté, là, l'air était vif. Pour en revenir aux promenades en voiture que Madame Verdurin organisait pour l'après-midi, la patronne, si au retour elle trouvait les cartes de quelques mondains de passage sur la côte, feignait d'être ravie, mais était désolée d'avoir manqué sa visite. Et, bien qu'on ne vînt encore que pour avoir la maison ou connaître pour un jour une femme dont le salon artistique était célèbre, mais infréquentable à Paris, le faisait vite inviter par M. Verdurin à venir dîner au prochain mercredi. Comme souvent le touriste était obligé de repartir avant, ou craignait les retours tardifs, Madame Verdurin avait convenu que, le samedi, on la trouverait toujours à l'heure du goûter. Ces goûters n'étaient pas extrêmement nombreux, et j'en avais connu à Paris de plus brillants chez la princesse de Guermantes, chez Madame de Galifet ou Madame d'Arpajon. Mais, justement, ici, ce n'était plus Paris, et le charme du cadre ne réagissait pas pour moi que sur l'agrément de la réunion, mais sur la qualité des visiteurs. La rencontre de tel mondain, laquelle à Paris ne me faisait aucun plaisir, mais qui, à la Raspelière où il était venu de loin, par Féterne ou la forêt de Chantepie, changeait de caractère, d'importance, devenait un agréable incident. Quelquefois, c'était quelqu'un que je connaissais parfaitement bien et que je n'eusse pas fait un pas pour retrouver chez les Swann. Mais son nom sonnait autrement sur cette falaise, comme celui d'un acteur qu'on entend souvent dans un théâtre, imprimé sur l'affiche, en une autre couleur, d'une représentation extraordinaire et de gala, où sa notoriété se multiplie tout à coup de l'imprévu du contexte. Comme à la campagne, on ne se gêne pas, le mondain prenait souvent sur lui d'amener les amis chez qui il habitait, faisant valoir tout bas comme excuse à Madame Verdurin qu'il ne pouvait les lâcher demeurant chez eux. À ses hôtes, en revanche, il feignait d'offrir comme une sorte de politesse de leur faire connaître ce divertissement, dans une vie de plage monotone, d'aller dans un centre spirituel, de visiter une magnifique demeure et de faire un excellent goûter. Cela composait tout de suite une réunion de plusieurs personnes de demi-valeur. Et si un petit bout de jardin, avec quelques arbres, qui paraîtrait mesquin à la campagne, prend un charme extraordinaire avenue Gabriel ou bien rue de Monceau, où des multimillionnaires seuls peuvent se l'offrir, inversement, des seigneurs qui sont de second plan dans une soirée parisienne prenaient toute leur valeur le lundi après-midi à la Raspelière. À peine assis autour de la table, couverte d'une nappe brodée de rouge et sous les trumeaux en camaïeu, on leur servait des galettes, des feuilletés normands, des tartes en bateau, remplies de cerises comme des perles de corail, des diplomates. Et aussitôt, ces invités subissaient, de l'approche de la profonde coupe d'azur sur laquelle s'ouvraient les fenêtres, et qu'on ne pouvait pas ne pas voir en même temps qu'eux, une altération, une transmutation profonde qui les changeait en quelque chose de plus précieux. Bien plus, même avant de les avoir vus, quand on venait le lundi chez Madame Verdurin, les gens qui, à Paris, n'avaient plus que des regards fatigués par l'habitude pour les élégants attelages qui stationnaient devant un hôtel somptueux, sentaient leur cœur battre à la vue des deux ou trois mauvaises tapissières arrêtées devant la raspelière sous les grands sapins. Sans doute, c'était que le cadre agreste était différent, et que les impressions mondaines, grâce à cette transposition, redevenaient fraîches. C'était aussi parce que la mauvaise voiture, prise pour aller voir Madame Verdurin, évoquait une belle promenade et un coûteux forfait conclu avec un cocher qui avait demandé tant pour la journée. Mais la curiosité légèrement émue à l'égard des arrivants, encore impossibles à distinguer, tenait aussi de ce que chacun se demandait « Qui est-ce que cela va être ?» Question à laquelle il était difficile de répondre, ne sachant pas qui avait pu venir passer 8 jours chez les Cambremer ou ailleurs, et qu'on aime toujours à se poser dans les vies agrestes, solitaires, ou la rencontre d'un être humain qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou la présentation à quelqu'un qu'on ne connaît pas, cesse d'être cette chose fastidieuse qu'elle est dans la vie de Paris, et interrompt délicieusement l'espace vide des vies trop isolées, où l'heure même du courrier devient agréable. Et le jour où nous vîmes en automobile à la Raspelière, comme ce n'était pas lundi, monsieur et madame Verdurin devaient être en proie à ce besoin de voir du monde qui trouble les hommes et les femmes et donne envie de se jeter par la fenêtre aux malades qu'on a enfermés loin des siens pour une cure d'isolement. Car le nouveau domestique, aux pieds plus rapides et déjà familiarisé avec ses expressions, nous ayant répondu que, si madame n'était pas sortie, elle devait être à la vue de Douville, qu'il allait aller voir. Il revint aussitôt nous dire que celle-ci allait nous recevoir. Nous la trouvâmes un peu décoiffée, car elle arrivait du jardin, de la basse-cour et du potager, où elle était allée donner à manger à ses paons et à ses poules, chercher des œufs, cueillir des fruits et des fleurs, pour faire son chemin de table, chemin qui rappelait en petit celui du parc. Mais sur la table, il donnait cette distinction de ne pas lui faire supporter que des choses utiles et bonnes à manger. Car autour de ses autres présents du jardin, qu'étaient les poires, les œufs battus à la neige, montaient de hautes tiges de vipérines, d'œillets, de roses et de coréopsis, entre lesquelles on voyait, comme entre des pieux indicateurs effleuris, se déplaçaient, par le vitrage de la fenêtre, les bateaux du large. À l'étonnement que M. et Mme Verdurin, s'interrompant de disposer les fleurs pour recevoir les visiteurs annoncés, montrèrent, en voyant que ces visiteurs n'étaient autres qu'Albertine et moi, je vis bien que le nouveau domestique, plein de zèle, mais à qui mon nom n'était pas encore familier, l'avait mal répété, et que Madame Verdurin, entendant le nom d'hôtes inconnus, avait tout de même dit de faire entrer, ayant besoin de voir n'importe qui. Et le nouveau domestique contemplait ce spectacle de la porte afin de comprendre le rôle que nous jouions dans la maison. Puis il s'éloigna en courant à grandes enjambées, car il n'était engagé que de la veille. Quand Albertine eut bien montré sa toque et son voile au Verdurin, elle me jeta un regard pour me rappeler que nous n'avions pas trop de temps devant nous pour ce que nous désirions faire. Madame Verdurin voulait que nous attendissions le goûter, mais nous refusâmes, quand tout d'un coup se dévoila un projet qui eut mis à néant tous les plaisirs que je me promettais de ma promenade avec Albertine. La patronne, ne pouvant se décider à nous quitter, ou peut-être à laisser échapper une distraction nouvelle, voulait revenir avec nous. Habituée dès longtemps à ce que, de sa part, les offres de ce genre ne fissent pas plaisir, et n'étant probablement pas certaine que celle-ci nous en causerait un, elle dissimula sous un excès d'assurance la timidité qu'elle éprouvait en nous l'adressant, et n'ayant même pas l'air de supposer qu'il pût y avoir doute sur notre réponse, elle ne nous posa pas de questions, mais dit à son mari, en parlant d'Albertine et de moi, comme si elle nous faisait une faveur, « Je les ramènerai, moi !» En même temps, s'appliqua sur sa bouche un sourire qui ne lui appartenait pas en propre, un sourire que j'avais déjà vu à certaines gens, quand il disait à Bergotte d'un air fin, « J'ai acheté votre livre, c'est comme cela !» Un de ces sourires collectifs, universaux, que, quand ils en ont besoin, comme on se sert du chemin de fer et des voitures de déménagement, empruntent les individus, sauf quelques-uns très raffinés, comme Swann ou comme Monsieur de Charlus, aux lèvres de qui je n'ai jamais vu se poser ce sourire-là. Dès lors, ma visite était empoisonnée. Je fis semblant de ne pas avoir compris. Au bout d'un instant, il devint évident que Monsieur Verdurin serait de la fête. « Mais ce sera bien long pour Monsieur Verdurin, » dis-je. « Mais non !» me répondit Madame Verdurin d'un air condescendant et égayé. « Il dit que ça l'amusera beaucoup de refaire avec cette jeunesse cette route qu'il a tant suivie autrefois. Au besoin, il montera à côté du Wattman. Cela ne l'effraie pas, et nous reviendrons tous les deux bien sagement par le train, comme de bons époux. Regardez, il a l'air enchanté !» Elle semblait parler d'un vieux grand peintre plein de bonhomie, qui, plus jeune que les jeunes, met sa joie à barbouiller des images pour faire rire ses petits-enfants. Ce qui ajoutait à ma tristesse est qu'Albertine semblait ne pas la partager et trouver amusant de circuler ainsi par tout le pays avec les Verdurins. Quant à moi, le plaisir que je m'étais promis de prendre avec elle était si impérieux que je ne voulus pas permettre à la patronne de le gâcher. J'inventais des mensonges, que les irritantes menaces de Madame Verdurin rendaient excusables, mais qu'Albertine, hélas, contredisait. « Mais nous avons une visite à faire, » dis-je. « Quelle visite ? » demanda Albertine. « Je vous expliquerai, c'est indispensable. »« Eh bien, nous vous attendrons, » dit Madame Verdurin, résignée à tout. À la dernière minute, l'angoisse de me sentir ravir un bonheur si désiré me donna le courage d'être impoli. Je refusai nettement, alléguant à l'oreille de Madame Verdurin qu'à cause d'un chagrin qu'avait eu Albertine et sur lequel elle désirait me consulter, il fallait absolument que je fusse seule avec elle. La patronne prit un air courroucé. « C'est bon, nous ne viendrons pas !» me dit-elle d'une voix tremblante de colère. Je la sentis si fâchée que, pour avoir l'air de céder un peu, « Mais on aurait peut-être pu... »« Non !» reprit-elle, plus furieuse encore. « Quand j'ai dit non, c'est non !» Je me croyais brouillée avec elle, mais elle nous rappela à la porte pour nous recommander de ne pas « lâcher le lendemain mercredi » et de ne pas venir avec cette affaire-là, qui était dangereuse la nuit, mais par le train, avec tout le petit groupe. Et elle fit arrêter l'auto déjà en marche sur la pente du parc, parce que le domestique avait oublié de mettre dans la capote le carré de tarte et les sablés qu'elle avait fait envelopper pour nous. Nous repartîmes, escortés un moment par les petites maisons accourues avec leurs fleurs. La figure du pays nous semblait toute changée, tant dans l'image topographique que nous nous faisons de chacun d'eux, la notion d'espace est loin d'être celle qui joue le plus grand rôle. Nous avons dit que celle du temps les écarte davantage. Elle n'est pas non plus la seule. Certains lieux que nous voyons toujours isolés nous semblent sans commune mesure avec le reste, presque hors du monde, comme ces gens que nous avons connus dans des périodes à part de notre vie, au régiment, dans notre enfance, et que nous ne relions à rien. La première année de mon séjour à Balbec, il y avait une hauteur où Madame de Villeparisis aimait à nous conduire, parce que de là, on ne voyait que l'eau et les bois, et qui s'appelait Beaumont. Comme le chemin qu'elle faisait prendre pour y aller et qu'elle trouvait le plus joli à cause de ses vieux arbres montait tout le temps, sa voiture était obligée d'aller au pas et mettait très longtemps. Une fois arrivés en haut, nous descendions, nous nous promenions un peu, remontions en voiture, revenions par le même chemin, sans avoir rencontré aucun village, aucun château. Je savais que Beaumont était quelque chose de très curieux, de très loin, de très haut. Je n'avais aucune idée de la direction où cela se trouvait, n'ayant jamais pris le chemin de Beaumont pour aller ailleurs. On mettait du reste beaucoup de temps en voiture pour y arriver. Cela faisait évidemment partie du même département, ou de la même province, que Balbec, mais était situé pour moi dans un autre plan, jouissait d'un privilège spécial d'exterritorialité. Mais l'automobile, qui ne respecte aucun mystère, après avoir dépassé Incarville, dont j'avais encore les maisons dans les yeux, comme nous descendions la côte de traverse qui aboutit à Parville, Paternivilla, apercevant la mer d'un terre-plein où nous étions, je demandai comment s'appelait cet endroit. Et avant même que le chauffeur m'eût répondu, je reconnus Beaumont, à côté duquel je passais ainsi, sans le savoir, chaque fois que je prenais le petit chemin de fer, car il était à 2 minutes de Parville. Comme un officier de mon régiment qui m'eût semblé un être spécial, trop bienveillant et simple pour être de grande famille, trop lointain déjà et mystérieux pour être simplement d'une grande famille, et dont j'aurais appris qu'il était beau-frère, cousin de telle ou telle personne avec qui je dînais en ville. Ainsi Beaumont, relié tout d'un coup à des endroits dont je le croyais si distinct, perdit son mystère et prit sa place dans la région, me faisant penser avec terreur que Madame Bovary et la Sanseverina m'eussent peut-être semblé des êtres pareils aux autres si je les eusse rencontrés ailleurs que dans l'atmosphère close d'un roman. Il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin de fer aurait dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine devant l'automobile, qui mène, même un malade, là où il veut, et empêche, comme je l'avais fait jusqu'ici, de considérer l'emplacement comme la marque individuelle, l'essence sans succès d'année des beautés inamovibles. Et sans doute, cet emplacement, l'automobile n'en faisait pas, comme jadis le chemin de fer, quand j'étais venu de Paris à Balbec, un but soustrait aux contingences de la vie ordinaire, presque idéal au départ, et qui, le restant à l'arrivée dans cette grande demeure où n'habite personne et qui porte seulement le nom de la ville, la gare a l'air d'en promettre enfin l'accessibilité, comme elle en serait la matérialisation. Non, l'automobile ne nous menait pas ainsi féeriquement dans une ville que nous voyons d'abord dans l'ensemble que résume son nom, et avec les illusions du spectateur dans la salle. Elle nous faisait entrer dans la coulisse des rues, s'arrêtait à demander un renseignement à un habitant. Mais, comme compensation d'une progression si familière, on a les tâtonnements même du chauffeur incertain de sa route et revenant sur ses pas, les chassés-croisés de la perspective faisant jouer un château aux quatre coins avec une colline, une église et la mer, pendant qu'on se rapproche de lui, bien qu'il se blottisse vainement sous sa feuillée séculaire. Ces cercles, de plus en plus rapprochés, que décrit l'automobile autour d'une ville fascinée qui fuit dans tous les sens pour échapper, et sur laquelle finalement elle fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée où elle reste gisante à terre, de sorte que cet emplacement, point unique, que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, Elle donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-mêmes comme avec un compas, de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre.